Christian Page, bonjour.
Salut Bernard.
On commence avec l'histoire de cet astéroïde qui s'appelle
Apophis.
Apophis.
On dirait presque un nom sorti d'une bande dessinée d'Astérix, mais c'est ce cool. N'est pas le cas. Donc, Apophis, effectivement, c'est un mot, un nom égyptien de l'ancienne Égypte qui désignait le roi, le dieu du chaos et du mal. Et okay. Tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça. C'est un gros astéroïde. Hein. Il fait 340 mètres de diamètre. Donc, grosso modo, c'est une fois et demie le stade olympique là, pour les gens qui essaient de figurer la dimension du caillou en question. Et il a été découvert en 2004. Il a été classé sur la liste de la NASA comme étant un astéroïde potentiellement dangereux. Mais depuis, de nouveaux calculs, parce que bon, évidemment, l'astéroïde fonce en direction de la Terre. Et lorsqu'il a été découvert en 2004, évidemment, il était très, très éloigné. On s'est dit, on va faire des calculs. Il y avait à ce moment-là une possibilité d'une collision avec la Terre. Parce qu'il faut le savoir, Bernard, c'est une menace qui nous pend au-dessus de la tête. Hein. C'est une épée de Damoclès sur laquelle on doit considérer. Parce que c'est pas la première fois dans l'histoire de la Terre que notre planète est frappée par un astéroïde. On le sait, il y a 65 millions d'années, la disparition des dinosaures a été une conséquence d'un contact, en fait, d'un impact avec une météorite. Et ce qui a créé le golfe du Mexique aujourd'hui. Et ça a entraîné une extinction quasi totale des formes de vie sur Terre. Et il faut savoir également qu'au cours de l'histoire de la Terre, il y a eu deux ou trois extinctions majeures qui ont presque entraîné la disparition de toute forme de vie. Et on n'est pas très équipé pour l'instant pour faire face à une telle menace qui pourrait survenir. Donc, à partir du moment où on constate la présence de ce gros astéroïde en 2004, on se dit, bon, c'est vrai qu'il est sur une course de collision avec la Terre, on va calculer ça. Et depuis, les scientifiques se sont ravisés en disant, oui, c'est vrai que Apophis va passer tout près de la Terre. En fait, il va passer le 13 avril 2029, ce qui nous donne quand même un petit temps de repos, là, il nous donne 10 ans. Mais ouais. L'astéroïde va passer à peu près à 30 km de la Terre.
C'est quand 30 000 km
de la Terre. C'est 10 fois moins loin que la distance entre la Terre et la Lune. Et il va passer si près qu'il sera visible à l'œil nu. S'il devait entrer en collision avec la Terre, ce qu'excluent les experts pour l'instant, s'il devait entrer en collision avec la Terre, ça pourrait être la fin de l'humanité telle qu'on la connaît.
Tellement cet astéroïde est énorme, c'est ça?
Effectivement, s'il frappait la Terre, son rayonnement dégagerait plusieurs dizaines de milliers de fois le rayonnement de la bombe d'Hiroshima. Okay. Et il entraînerait, s'il tombait dans la mer, il entraînerait des vagues de 170 mètres de haut qui voyageraient à la vitesse de 100 km à l'heure.
OK, mais là, bon. Avant que les auditeurs se mettent à prendre le clos, à nous écouter, rappelons que le consensus scientifique, c'est que l'astéroïde ne frappera pas
la Terre. Donc, tous les chiffres proposés par les scientifiques disent non, cet astéroïde va passer tout près, c'est vrai, 30 000 km de la Terre, mais ça va nous permettre de le voir à l'œil nu. Même les scientifiques considèrent ça comme étant un événement extraordinaire. Ça va nous permettre de voir de très, très près un astéroïde qui va passer là, dans le secteur, aux alentours de la Terre, dans l'environnement direct de la Terre. Mais tu comprendras que pour les théoriciens du complot et pour les amateurs de prophéties apocalyptiques, on a une autre interprétation de ça. On nous dit, ben voilà, la NASA, déjà en 2004, annonçait qu'il y avait une possible collision de la Terre. Là, maintenant, on change notre fusil d'épaule. On dit qu'on a peaufiné les chiffres pour dire que l'astéroïde ne va passer que tout près de la Terre. Mais en fait, ce que l'on dit, c'est que la NASA essaie de se faire rassurante parce qu'elle ne peut pas exclure un impact avec la Terre. Et éventuellement, comme on n'est pas très équipé pour faire face à une telle menace...
On nous cache.
On nous cache la vérité.
On nous cache la vérité pour pas nous faire paniquer.
Voilà, parce que c'est vrai qu'au moment où on se parle, et ça, ils ont tout à fait raison, au moment où on se parle aujourd'hui, en 2019, si on devait faire face à une telle menace, nous sommes pas très équipés pour faire ça. On pourrait toujours essayer de lancer un missile avec une charge nucléaire pour détruire l'astéroïde en question.
Ou dévier, ou la faire dévier de sa course.
Oui, mais oui. Si on le fragmente, tu comprendras que les roches... Mm-hmm. Parce que si on le fragmente, ce n'est pas un astéroïde, mais ce sont des centaines de particules du météorite qui risquent d'entrer sur Terre. Avec, on peut toujours espérer que certains seront détruits dans l'atmosphère, mais d'autres pourront atteindre certaines cibles au sol. Et une météorite qui tomberait, par exemple, sur des grandes zones populeuses, comme New York ou Londres ou même Montréal, évidemment, avec les conséquences que ça entraîne. Donc, au moment où on se parle, on a le discours des scientifiques qui nous disent « Non, non, ne paniquons pas, 2029 nous permettra de voir dans l'environnement proche de la Terre ce gigantesque caillou de 340 mètres de diamètre. » Et de leur côté, les théoriciens du complot nous disent « c'est peut-être pas si sûr que ça. Il ne reste peut-être que 10 ans à l'humanité telle qu'on la connaît. »
Bon, ben je préfère la première hypothèse.
Oui, bien sûr.
Hein, parce que...
bon. Je te comprends.
parlons des chimères. D'abord, rappelle-nous, qu'est-ce que c'est qu'une chimère?
Ouais, et là, écoute, Bernard, c'est une nouvelle qui est inquiétante et qui reprend un peu la conversation que tu avais avec notre collègue Lavoie tantôt, lorsqu'on parlait de la Chine. On s'est dit, bon, la Chine, c'est vrai qu'on outrepasse un peu les droits de l'homme, on outrepasse toutes sortes de règles. Et ce qui nous amène à cette nouvelle, bon, qu'est-ce que c'est qu'une chimère? Dans la mythologie, les chimères, ce sont des créatures qui sont la moitié de quelque chose et la moitié d'autre chose.
D'accord.
Tu prends par exemple un griffon, ben c'est la moitié d'un aigle c'est une tête d'aigle sur un corps de lion. Hein? Donc on voit un peu ce mélange d'animaux. Et ça c'est très répandu dans les mythologies. Donc les chimères c'est des compositions un peu fantastiques de ce genre-là. Mais là la nouvelle dont je te parle, on n'est plus trop dans le fantastique ou la mythologie. On est malheureusement dans la science et la science un peu sombre. En fait, ce qu'on apprend au cours des derniers jours, c'est il y a quelques mois à peine, et à la tête de ce projet-là, il y avait quand même un scientifique, le docteur Juan Carlos Ipsua Belmonte. Mmh. C'est un scientifique espagnol. Il est très réputé. Il est attaché à l'Institut Salk en Californie. C'est un scientifique de renom dans le domaine de l'ADN. Et là, ce qu'on apprend, c'est que ce docteur Belmonte a travaillé avec une équipe de chercheurs en Chine avec des cobayes primates. Il faut savoir que dans les grands pays occidentaux, le travail de laboratoire avec des primates est excessivement encadré. En Chine, évidemment, cet encadrement n'existe pas et il y a une espèce de liberté qui peut être faite. Et là, on apprend, écoute, on est dans le roman du Frankenstein, on apprend que les scientifiques ont pris des embryons de primates. Ils les ont épurés, si je puis dire, des gènes qui leur permettaient de développer des organes et ont injecté dans ces embryons des cellules souches humaines pour créer un embryon chimère composé à la fois d'un embryon de chimpanzé, donc des cellules de chimpanzé, avec des cellules souches humaines.
L'idée étant de créer des organes qui pourraient éventuellement transplanter sur les êtres humains.
Voilà. Donc, on avait mené aux États-Unis et dans des laboratoires en Europe des recherches semblables en utilisant des porcs et les résultats avaient été beaucoup moindres. En fait, on avait obtenu un résultat viable pour 100 000 manipulations. Alors là, voilà que les scientifiques se sont montrés très avares de commentaires sur les résultats en Chine, mais tu comprendras que c'est très inquiétant. Et tu l'as mentionné, l'idée, c'est de dire on va permettre à un autre animal, de pouvoir permettre à l'intérieur de lui-même de développer un organe. Or, comme les chimpanzés et les primates sont très très proches de l'être humain, on pourrait faire grandir à l'intérieur d'un primate. Et là, évidemment, je schématise beaucoup. Je peux imaginer des biologistes qui nous écoutent doivent dire « Ouais, mais là, on fait beaucoup de raccourcis. » Mais l'idée, c'est de faire grandir à l'intérieur d'un autre primate, de faire grandir, par exemple, un foie humain.
Oui. Hein,
déjà, on avait fait ça avec des rats et des souris, donc deux espèces voisines, mais quand même différentes. On avait permis, en faisant des manipulations génétiques, on avait pu permettre de produire à l'intérieur d'un rat un pancréas de souris. On avait permis également le développement d'une partie d'un foie, également des yeux à l'intérieur d'un rat à partir de cellules souches de souris. Alors là, l'idée, c'est de dire, on va faire grandir dans un autre primate un foie humain, un pancréas humain, et éventuellement, on pourra utiliser ces organes pour les transposer, transplanter. On appelle ça de la xénotransplantation sur des humains. Évidemment, personne n'est contre la vertu, puis on se dit, bon, c'est louable parce que c'est vrai qu'on doit faire face, et plus la population augmente, c'est un problème qui devient de plus en plus criant, ce besoin d'organes pour des transplantations. Et en passant, pas assez de gens signent leur carte de don d'organes.
Oui, hein,
je passe le message. Donc, bien on sûr. Devrait le faire davantage. Mais c'est vrai qu'on est dans une pénurie d'organes. Cette idée de pouvoir, entre guillemets, cultiver des organes pour pouvoir répondre à ce besoin de transplantation, il est bien sûr louable. Mais en même temps, les scientifiques nous disent, c'est sûr qu'au moment de la création de ces chimères, les cellules créées de cette manière-là n'ont en fait été étudiées que pendant 14 jours, après quoi on a mis fin au projet et les cellules ont été détruites.
C'est ce qu'ils nous disent.
C'est ce qu'on nous dit. Et on se dit, oui, mais
on sait que la Chine est très transparente et que la liberté de presse y est très, très omniprésente, n'est-ce pas?
T'as tout compris, Bernard. Donc, si on a un scientifique espagnol qui peut-être est guidé par des intérêts ou des politiques éthiques qui se rapproche de ce qui est respecté en Europe. Rien ne nous dit que dans d'autres laboratoires, en Chine, on n'utilise pas les mêmes résultats de ces recherches pour mener d'autres expériences. Et qui sait si certaines de ces cellules n'ont pas été menées à terme. Et ce qui inquiète également, c'est qu'on sait que dans ces projets de recherche, on s'interroge beaucoup sur quelle serait l'influence de cellules, des neurones en fait, transplantées sur des cerveaux de primates. Qu'est-ce qui fait que le cerveau de l'être humain s'est développé au point de créer une race intelligente, ou je dirais même super intelligente? C'est quoi le petit déclic sur le plan neurologique qui a permis ça? Et là, on se dit, déjà sur les planches à dessin, il y a des recherches qui sont menées dans ce sens-là. On se dit, OK, si on prenait des cellules souches neurologiques, qu'on les transplantait sur des chimpanzés, est-ce qu'on pourrait produire des animaux plus intelligents?
Ben, c'est la planète des singes, mon ami.
Voilà.
L'image qui nous vient à l'esprit, c'est la planète des singes.
Et Pierre Boulle doit se tourner dans sa tombe en entendant ça, parce qu'effectivement, on est dans l'antichambre de la planète des singes. Et on se demande jusqu'où on peut accepter sur le plan éthique que des recherches comme celle-là sont menées. Donc, je peux comprendre que lorsqu'un truc comme ça est sorti, et je te cacherai pas que sur le plan de l'éthique dans les publications scientifiques nord-américaines, on s'interroge beaucoup sur, en fait, le besoin de faire ce genre de recherche. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt essayer de retravailler à la programmation des cellules? Lorsqu'un foie, par exemple, se met à... Si on parle, par exemple, d'un cancer du foie, on le sait que c'est une multiplication de manière anarchique des cellules du foie. Est-ce qu'on ne devrait pas travailler davantage, mettre plus d'efforts pour travailler sur la reprogrammation cellulaire, pour dire au foie, cesse de produire ces cellules anarchiques?
Mais il y a des recherches là-dessus.
Il y a des recherches qui sont faites. Et en parallèle, on a ces histoires un peu horribles qui sont menées dans des laboratoires en Chine et qui font bien sûr sourciller les scientifiques qui en Amérique du Nord et en Europe, essaient toujours de composer dans un cadre très précis sur le plan de l'éthique.
En tout cas, j'aimerais bien voir les preuves que tous ces embryons ont bel et bien été détruits. Je sais pas où est-ce qu'il est, le docteur Belmonte. Je sais pas s'il est encore en Chine ou il est rentré chez lui en Espagne, là. Mais je suis d'accord avec toi. C'est un petit peu inquiétant. C'est un petit peu inquiétant. En tout cas, merci de nous en avoir parlé. Je te souhaite un bon week-end, Christian Page. Merci à Sébastien Lapierre aujourd'hui qui était notre metteur en onde. François Brisson nous avait accompagnés jusqu'à maintenant cette semaine. Merci François. Valérie Beaudoin et Maryse Duchesneau étaient mes deux collaboratrices recherchistes Super Val et Super Maryse. Je vous souhaite un bon week-end tout le monde. C'est Patrick Lagacé qui arrive. On se reparle lundi.